On vote donc en ce moment même au Kosovo, ce jeune État indépendant depuis 2008, reconnu par une centaine de pays. Des législatives anticipées convoquées il y a un mois par la présidence à l'initiative du Premier ministre. Et l'enjeu justement pour cet homme, Hashim Thaçi, c'est bien de renforcer sa majorité qui s'est révélée insuffisante pour faire passer ces derniers mois certains de ses projets. En ligne avec nous, Odile Perrault, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en sciences politiques, consul honoraire du Kosovo. Un vote quelques mois donc avant la date prévue. Quel est le véritable enjeu du scrutin qui se déroule au moment où nous parlons ?
Alors en fait, oui, il y a deux enjeux. En effet, il y a cette question de passer certaines lois, en particulier deux lois. Une sur la création de l'armée du Kosovo et l'autre sur la question du maintien des sièges réservés au Parlement aux représentants des minorités. Et disons que l'une des lois, enfin une des réformes demandait le soutien d'au moins deux tiers du Parlement, la deuxième également, et ça n'a jamais été les mêmes deux tiers, si vous voulez, qui soutenaient ces deux lois, ce qui fait que la majorité a dû décider la dissolution du Parlement. Cela dit, ça faisait déjà un petit moment qu'on parlait des élections anticipées, d'autant que depuis les élections de 2010, les dernières élections législatives, suite à un accord entre les partis, il était prévu qu'il y aurait des élections relativement tôt pour un nouveau Parlement et un nouveau président.
Vous évoquiez le poids des minorités, on pense forcément aux Serbes du Kosovo. Comment peuvent-ils justement aujourd'hui peser sur ce scrutin ?
Justement, en effet, pour ces élections, c'est très important parce que pour la première fois, l'appel au boycott n'est pas généralisé. Au nord comme au sud, les citoyens ont été appelés à voter. Bon, il y a encore quelques représentants qui, sans faire campagne pour le boycott, se sont un peu moins manifestés. Mais cela dit, disons, le mot d'ordre est plutôt d'aller voter pour rentrer dans le jeu institutionnel et pour obtenir plus que les sièges réservés qui sont au nombre de 10 pour la minorité serbe. Pour obtenir, pourquoi pas, par exemple, 20 sièges au Parlement, ce qui serait évidemment le signe d'un poids politique pour la minorité serbe.
Avec un appel à voter, y compris de la part de Belgrade,
oui.
Après déjà l'accord très remarqué qui avait eu lieu entre les autorités de Pristina, justement, et la capitale serbe.
Oui, exactement. Le fameux accord du 19 avril 2013, qui a été qualifié d'accord historique par l'Union européenne, par exemple. Cet accord qui doit encore être mis en œuvre sur certains points. On a d'ailleurs attendu les élections anticipées au début de cette année à Belgrade, puis les élections européennes qui ont aussi une importance puisque il y aura une nouvelle commission. Et alors maintenant, il va y avoir un nouveau gouvernement au Kosovo. Donc on va avoir trois nouvelles équipes, en quelque sorte, pour la mise en œuvre de ce fameux accord.
Un nouveau gouvernement, même si le Premier ministre sortant espère bien rester en place, lui.
Oui, enfin, j'imagine que c'est le cas de tous les premiers ministres qui sont en place. Cela dit, évidemment, comme toujours, les élections, on attend de voir le résultat des différentes forces politiques. Le PDK, donc le parti du premier ministre Hashim Thaçi, lui, on verra ce que ça donnera. Il y a eu un parti dissident qui a été créé il y a peu, donc on verra si ça l'affaiblit. Vous avez la LDK, la deuxième force du pays, qui a perdu la mairie, en fait, de Pristina, de la capitale, l'année dernière, puis d'autres partis qui eux aussi auront leur jeu à jouer, et bien sûr les partis des Serbes, puisque pour la première fois vous avez une liste serbe unie qui s'est constituée jusqu'au dernier moment, on pourrait dire qu'elle s'est résolue en plus à participer et à s'unir, donc vous avez une liste serbe unie plus un parti serbe qui existe depuis assez longtemps et qui faisait partie de la coalition précédente avec les partis albanais.
Pour revenir justement à ce Premier ministre sortant, il a pendant la campagne, présentait un programme très très ambitieux, notamment dans le domaine économique, alors que le Kosovo, aujourd'hui, c'est toujours le pays le plus pauvre d'Europe qui dépend directement de l'aide internationale.
Oui, alors le programme est ambitieux. Bon, ça c'est le jeu de toutes les campagnes, finalement, c'est ce que c'est. Bon, d'avoir annoncé une hausse de 25% des salaires publics, c'est non seulement ambitieux, mais en plus, c'est pas ce que le FMI préfère. Mais c'était le cas lors des précédentes élections aussi, donc on verra ce que cela donnera. Le niveau économique du pays, certes, n'est pas très très élevé. Alors, bon, on peut batailler entre le Kosovo, l'Albanie, voire la Moldavie, si on veut inclure la Moldavie dans l'Europe, pour ce qui concerne le niveau économique. Il y a eu quand même des progrès de fait, même s'il y a encore beaucoup de personnes, environ 30%, qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Mais c'est vrai que l'économie, l'emploi ou le chômage, l'éducation, la santé, ce sont les priorités de la population actuellement.
Un salaire moyen quand même à 350 euros.
Oui. Bon, les salaires moyens dans les Balkans sont souvent de cet ordre-là. Bon, vous avez les pays comme la Croatie qui ont bénéficié évidemment de l'association avec l'Union européenne.
Alors, le Kosovo miné par la corruption et le crime organisé, est-ce que c'est un cliché occidental? En tout cas, comment ce genre d'image est relayé dans la presse sur place?
Alors, il y a des articles souvent sur cette question. La population aussi, la société civile s'est mobilisée. Vous avez des ONG comme l'ONG Chou, par exemple, qui remontent en général certaines affaires. Il y a quand même une agence publique de lutte contre la corruption qui a été créée il y a plusieurs années. Et puis, vous avez surtout le travail de la mission européenne EULEX qui a ouvert plusieurs procès pour des questions de corruption, même avec des personnes haut placées, même aussi si c'est assez difficile. Évidemment de les mener à terme. Selon Transparency International, vous savez, avec le fameux indice de perception de la corruption, le Kosovo est à la 111e place sur 177 pays. Donc c'est sûr que ce n'est pas très très bien placé. Il y a eu quelques grands scandales comme la question de la construction de l'autoroute entre le Kosovo et l'Albanie qui a facilité la vie des citoyens mais qui aurait été entachée de beaucoup d'irrégularités.
Une dernière question avec cette déclaration d'Angela Merkel, c'était hier, elle a dit que le chemin serait long pour l'adhésion des pays des Balkans à l'Union européenne. Est-ce qu'il sera encore plus long justement pour le Kosovo?
C'est certain que la grande difficulté du Kosovo, ce n'est pas en fait tout ce dont on vient de parler, la corruption, l'économie ou même les difficultés politiques. Ça, c'est inhérent à l'ensemble des pays candidats même en général. La difficulté pour le Kosovo, c'est la reconnaissance par 5 pays États membres de l'Union européenne qui n'ont pas encore reconnu, qui ont pourtant pour certains d'entre eux de très bonnes relations diplomatiques avec le Kosovo. Donc pour l'Union européenne, il faut régler cette question du non-unanimité sur la reconnaissance pour l'intégration future du pays. Mais c'est aussi pour ça que l'Union européenne a lancé ce fameux dialogue et a poussé à l'accord de 2013 qui permet une meilleure coopération et au fur et à mesure, sans doute, la satisfaction des États membres qui pourront se dire « bon, ça se passe bien entre les deux pays, on peut reconnaître le Kosovo ». Même si il y a plein d'autres enjeux, évidemment, qu'il faudra prendre en compte, même au niveau national des États membres.
Merci beaucoup, Odile Perrot. Je rappelle que vous êtes consul honoraire du Kosovo.